réjouissons-nous en lui. Quand tu te réjouis pour Dieu, la crainte et l'oppression s'en va de ta vie. Parfois les gens sont dans des oppressions et dans la crainte, et ils se replient sur eux-mêmes, et ils sont là, Seigneur, et ils sont dans la crainte, ils sont dans la crainte. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que Dieu sait que quand tu te réjouis, la crainte et l'oppression quittent ta vie. Oh, nous avons des raisons d'être heureux, nous avons des raisons de nous réjouir en Dieu. Alors juste, offre à Dieu un sacrifice de joie, un sacrifice de reconnaissance. Remercie Jésus pour ce qu'il a fait de toi. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Alléluia, oh, alléluia, 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 oh, alléluia. Qu'il y a des gens qui ont besoin de courir ce soir. Il y en a parmi vous, vous avez besoin de courir ce soir dans la salle. Soyez libérés de la crainte. Soyez libérés de l'oppression. Commencez à courir. Commencez à vous réjouir en lui. Sortez de la crainte. Sortez de l'oppression. Au nom de Jésus. Il y a d'abondantes joies dans sa maison. Je dis qu'il y a des gens qui doivent courir ce soir. Je me souviens un jour, il y a des femmes de Dieu qui sont venues dans notre église et elles ont commencé à nous dire « Courez dans l'église !» Et je me suis dit « Mais c'est n'importe quoi !» Et en fait, ils m'ont pris comme ça, ils m'ont chopé à la sonorisation où j'étais et ils m'ont fait courir avec tout le monde. Et je me sentais un peu ridicule. Mais plus je courais et plus je goûtais à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Oh, je sens que vous devez courir ce soir. Il y a des gens qui sont dans la crainte, qui sont dans l'oppression. Mais vous devez courir pour Dieu. Oh, alléluia. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai ma course. Oh, alléluia. 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 Oh, rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Je suis libre. 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 Je suis libre en Jésus-Christ, le roi de gloire. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Nous glorifions son nom. Il est digne de gloire. Digne d'honneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom ce soir. Et nous te disons, fais ton entrée parmi nous. Et Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, nous voulons juste te voir, toi. Oh Seigneur, je suis inintéressant, mais toi, tu es intéressant. Seigneur, je suis vide, mais toi, tu es plein. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Merci parce que tu m'as oint, Seigneur, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés ce soir, les prisonniers. Seigneur, merci parce que ce soir, tu vas délivrer des gens de la crainte. Oh, tu vas délivrer des gens de mensonges qui sont dans leur vie depuis des années et qui voulaient les asservir. Seigneur, ce soir, tu vas libérer ton peuple encore pour la vraie liberté. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous nous réjouissons en toi. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Jésus-Christ est bon. Alléluia. C'est lui que nous servons. Précieux Jésus. Alléluia. J'aime tellement Jésus. J'aime tellement la présence de Jésus. Dans sa présence, il n'y a aucune culpabilité, aucun mensonge dans sa présence. Et ce soir, je crois que Jésus va délivrer plusieurs personnes parmi nous qui avaient des mensonges que vous amenez avec vous. Hier soir, on a parlé de la sanctification, de s'éloigner du péché. Et beaucoup ont pris des décisions et beaucoup marchent réellement dans la sainteté aujourd'hui. La sainteté ne veut pas dire ne jamais pécher. Puisque l'apôtre a dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc la sainteté, c'est une poursuite dans la marche avec Dieu. Mais dans cette sainteté, nous pouvons marcher dans cette sainteté tout en ayant avec nous des choses qui nous empêchent d'avancer là où Dieu veut qu'on soit. Et une de ces choses, ce sont les mensonges sataniques. Des mensonges et des pensées que beaucoup traînent avec eux pendant des années. Et ce soir, Dieu va vous délivrer. Nous allons aller dans Ésaïe au chapitre 54. Et vous rappeler rapidement juste que vous avez des livres à la sortie. Je pense que tout le monde est un peu au courant de ce livre ici. Donc c'est 365 jours au pied du maître dépensés pour vous édifier dans votre vie chrétienne. Et c'est juste à la sortie. Ésaïe 54 au verset 14. La Bible dit, tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de ta terreur, car elle n'approchera pas de toi. Beaucoup vivent dans l'oppression et dans toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Et Jésus a toujours eu dans sa parole des paroles de confiance, des paroles de paix, des paroles pour apaiser nos cœurs et nos âmes en lui. Et ce que Jésus veut encore aujourd'hui dans cette église merveilleuse, c'est vous apporter sa paix surnaturelle, qui vient garder vos cœurs et vos pensées en lui. Cette paix qui va vous permettre d'avancer dans votre vie chrétienne en toute liberté. Le diable est là et nous savons qu'il est méchant et qu'il veut constamment baisser la tête des croyants et aussi amener toutes sortes de mensonges dans leur vie pour que ces croyants finalement soient accablés tous les jours de leur vie. Et je vois dans beaucoup d'églises, et je dois le dire, beaucoup d'églises africaines, où il y a eu beaucoup de mensonges par rapport à la délivrance et où beaucoup de chrétiens sont là croyant que le diable est partout après eux. Mais sachez que le diable a été vaincu à la croix. Et autant de temps que vous croirez des superstitions, autant de temps que vous allez mettre votre foi dans le témoignage des autres gens qui sont contraires à cette parole, et aussi longtemps vous vivrez comme ces gens-là, avec des fausses superstitions qui auront un impact en vous, puisque la Bible déclare qu'il en sera fait selon ta foi. Si tu crois des superstitions, ces superstitions, tu les rends puissantes dans ta vie. Si tu crois un mensonge de l'ennemi, tu rends ce mensonge puissant dans ta vie. En fait, il y a la vérité de Dieu et il y a le mensonge. À partir du moment où tu crois cette vérité, tu rends cette vérité puissante dans ta vie. Cette vérité commence à avoir un effet, un impact dans ta vie. Plus tu t'approches de cette vérité et plus cette vérité s'empare de ta vie. Par contre, si tu mets ta foi dans le mensonge, ce mensonge aussi automatiquement aura un effet, un impact dans ta vie. Et malheureusement, beaucoup de gens mettent leur foi dans des mensonges, des choses qui paraissent un peu peut-être être la vérité, mais qui sont tout simplement des mensonges démoniaques, des mensonges sataniques. Et beaucoup donc, je vois dans les églises et dans certains milieux de gens croyants, en fait, qui mettent constamment leur foi dans toutes sortes de superstitions. Leur discussion, c'est tout le temps le diable ici, le diable là. Et malheureusement, à force de parler du diable, ils le rendent tellement vivant. Je me souviens, j'étais dans une église et j'ai déclaré « Dieu est bon ». Il y avait peut-être une vieille dame au fond qui a dit « Amen ». Et juste après, j'ai dit « Le diable est méchant ». Et là, toute l'église a dit « Amen, Amen ». Parce qu'ils ont mis leur foi dans la méchanceté du diable. Ils en ont oublié la gloire de Jésus-Christ. Si vous mettez votre foi dans la suprématie soi-disant du diable, vous la verrez agir dans votre vie. Mais si vous mettez votre foi dans la gloire de Jésus-Christ, vous verrez sa gloire. Vous verrez sa puissance être manifestée dans votre vie. Mais si l'ennemi de vos âmes et de vos pensées arrive à vous faire croire un mensonge, il va dévorer vos âmes. Il va dévorer aussi longtemps que vous lui laisserez la place, la porte ouverte dans vos âmes. Et il va dévorer tous vos rêves. Il va dévorer vos dons. Il va dévorer votre joie. Il va dévorer votre paix, afin que vous puissiez marcher tout en ayant la parole de Dieu à vos côtés, mais en ne lui faisant plus confiance. Jésus est un partisan de paix. Plus que cela, il apporte la vraie paix. Il a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne une paix constante. C'est une paix royale qui convient à des rois, qui convient au roi que nous sommes, car tu es un roi. Et Jésus a une paix royale pour toi. La paix qu'il te confère, qu'il te donne, la paix qu'il t'a déléguée, qu'il t'a donnée au travers de son sacrifice, la paix qu'il a tellement payé cher pour cette paix. La paix que tu peux recevoir en Jésus a été payée. Elle a été réglée par Jésus au travers des souffrances qu'il a eues à la croix. Il t'a donné une paix surnaturelle qu'il a payée par son sang précieux. Cette paix n'est pas gratuite. Cette paix a eu un coût important. On ne pouvait pas donner et apporter la paix comme ça. La paix a un prix. La paix de Dieu a un prix. Et ce prix a déjà été payé. Maintenant, il ne suffit juste de recevoir cette paix. Quelqu'un manquera de paix et il dira, je n'ai pas la paix. Voilà, il met sa foi dans son manque de paix. Quelqu'un d'autre n'a pas la paix et il déclarera, au nom de Jésus, je reçois la paix. Puisque Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous la donne et elle restera avec vous. Jésus vous a donné une paix surnaturelle. Mais cette paix, si vous n'y croyez pas, elle vous quittera. Elle vous lâchera, elle vous abandonnera. Parce que tout ce qui vient de Dieu est rattaché à la vérité. S'il n'y a pas de vérité en vous, la parole de la vérité ne pourra pas rester en vous. Elle ne sera pas, comme dit la parole, implantée, plantée dans vos cœurs et dans vos pensées. Mais la parole de Dieu de vérité a besoin d'être plantée dans vos cœurs, dans vos esprits et plantée dans vos âmes. C'est ça qui pourra sauver vos âmes. Ça veut dire que c'est ça qui pourra délivrer vos pensées de toutes sortes de mensonges diaboliques. Puisque notre âme ne sera pas sauvée comme notre esprit l'a été. Notre esprit a été glorieusement sauvé. Nous avons reçu un esprit nouveau et tout est devenu nouveau dans notre esprit. Toute malédiction qui aurait pu être là a été vaincue par Jésus-Christ. À l'intérieur de nous, spirituellement, il n'y a plus aucune malédiction sur nous. Nous avons été délivrés. Si tu crois le contraire, tu crois ce qui est différent de la parole de Dieu, tu crois un mensonge. Et tu laisses une porte ouverte dans ta vie pour que le diable fasse tout et n'importe quoi en fonction de ta foi en lui. Mais nous avons été délivrés. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons déjà été délivrés. Et je vois beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, tous les jours de leur vie, sont en train de courir et de courir et de se combattre et de combattre et de combattre des choses qui ont déjà été battues par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais beaucoup perdent, beaucoup de mois et beaucoup d'années et beaucoup d'églises aussi perdent leur rôle et perdent de vision Jésus-Christ parce qu'ils sont constamment en train de se battre pour des choses qui ont déjà été gagnées par Jésus. Vous n'avez pas à vous battre contre des démons. Vous n'avez pas à vous battre tous les jours de votre vie. Non, vous avez à marcher avec Jésus-Christ. Et si jamais des démons viennent vous faire des histoires, à ce moment-là, effectivement, vous allez y résister et vous allez les faire fuir au travers de la parole de vérité. Non pas à travers votre force personnelle, mais à travers la parole de vérité. Il dit donc dans Ésaïe 54, « Tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression. » Si l'oppression commence à toucher ta vie, parce que tu as pris de mauvaises résolutions, parce que tu commences à avoir de mauvaises habitudes, de mauvaises relations, tiens-toi éloigné de l'oppression. Il y a des gens qui rencontrent de nouvelles relations et ils ne se posent pas la question pourquoi, alors que ça fait quelques jours qu'ils ont rencontré telle personne, il y a une sorte d'oppression qui vient sur eux. Mauvaise relation. La Bible dit, tiens-toi éloigné de ces hommes-là. Et la Bible dit ici, tiens-toi éloigné de l'oppression. Il y a parfois des choix qu'on prend dans notre vie, de mauvais choix, et on est là en dehors de la volonté de Dieu. Et là, c'est le cercle, c'est ici le, entre guillemets, pâturage de l'oppression. Et si vous restez ici, en dehors de la volonté de Dieu, il y a une oppression qui va venir sur vous, parce que vous avez laissé une porte ouverte. Mais à ce moment-là, tenez-vous loin de l'oppression. Nous avons parlé hier de se tenir loin du péché, et c'est une chose réelle. Mais il y a aussi une autre chose, c'est de se tenir loin de l'oppression et du mensonge diabolique. C'est une chose que nous devons faire. Il dit, car tu n'as rien à craindre, et de ta terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Dieu a dit, si tu as une attaque dans ta vie, ça ne vient pas de lui. Tellement de gens ont cru être attaqués par Dieu. Et comment Dieu vous attaquerait? Il a attaqué Satan pour que tu sois libre, pour la vraie liberté. Pourquoi Dieu t'attaquerait? Dieu ne t'attaque pas. Il dit ici clairement, cela ne viendra pas de moi. Parfois des gens disent, alors qu'un homme de Dieu meurt dans un accident de voiture, Dieu l'a repris. Non, Dieu ne l'a pas repris. L'accident de voiture l'a repris. Si Dieu voulait le reprendre, il aurait fait comme Élie. Comme ça, on ne verrait même plus son corps. Nulle part dans la parole de Dieu, on voit Dieu reprendre quelqu'un dans un accident. Nulle part. Par contre, on voit Dieu dire, s'il y a un accident, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Dieu ne reprend pas, Dieu donne. Job a déclaré par manque de connaissance que Dieu reprend, mais Dieu ne reprend pas. Ma fille ne viendrait pas me dire « Oh, merci papa de m'offrir ce gâteau et de le manger devant moi. Merci de m'avoir offert un beau poney et de le tuer devant moi. Je te remercie papa, tu es un bon papa. » Je serais un mauvais papa, non? Il y a des gens comme ça, ils achètent un beau gâteau pour leurs enfants et ils le déballent devant eux, l'enfant est très content et ils le mangent sans rien donner à leur enfant. Ce sont de mauvais pères. Ce n'est pas de Dieu. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Mais j'ai... Rappelez-vous que, voyez ici que Dieu a créé le forgeron. Il n'a pas créé la fabrique de l'instrument de guerre. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Tous les instruments de guerre qui ont été mis dans ta vie seront sans effet à partir du moment où tu te marches dans la vérité. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi. Il y a une justice qui a été donnée à la croix. Une justice qui est en toi et qui est venue sur ta vie. Voilà pourquoi tu as été rendu juste et qu'il n'y a aucune condamnation en toi. Mais il y a aussi des instruments de guerre qui ont été fabriqués contre toi afin de te faire croire que tu n'es plus juste, que tu es injuste. Et à partir du moment où tu crois ce mensonge diabolique, tu permets à ce mensonge d'avoir une emprise sur ta vie. Donc, ce mensonge viendra te dire, regarde-toi, il y a bien un péché quelque part dans ta vie. Et oui, il y a un péché quelque part dans ta vie. Puisque nous sommes tous, nous avons tous péché. Et nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et je vais parler ce soir de l'intimidation. Des mensonges qui viennent pour nous faire perdre notre rôle, pour épuiser nos dons, pour rendre impuissants les choses que Dieu t'avait dites, les rêves que Dieu t'avait donnés, des mensonges qui sont donnés par Satan et par ses esprits méchants, afin que l'homme de Dieu, au lieu d'être bien préparé et adapté pour toute bonne œuvre, puisse reculer encore et encore loin de sa destinée, parce qu'il croit des mensonges. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons des pensées. Et ces pensées donneront soit des résultats négatifs, des résultats positifs. Quand tes pensées s'accorderont à la pensée de Dieu, obligatoirement, il y aura des fruits. Il y aura toutes sortes de bénédictions qui s'attacheront à ta vie. Dieu a dit ici, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. En fait, il y a des langues qui pensent être justes et qui se disent être justes pour te faire croire que toi, tu es injuste. Des choses qui sont complètement sataniques et qui te disent « tu n'es pas ceci, tu n'es pas assez cela, tu n'es pas assez ceci » pour te faire écarter de l'église locale, pour t'écarter des gens que tu aimes, pour t'écarter de ta famille. Voilà ce comment on appelle l'esprit de rejet, qui te fait croire que tu es moins aimé que les autres. Et tu t'écartes petit à petit parce que tu écoutes des mauvaises langues, des langues qui se lèvent en justice, soi-disant, contre toi. Je me souviens alors que je revenais à Dieu, j'ai rencontré ma femme alors que j'étais un malheureux et piètre rétrograde. Elle avait tellement soif de Dieu, alors qu'elle ne connaissait rien à Dieu, que ça m'a redonné soif à nouveau. Et je lui dis, on va aller dans mon église, on va retourner dans mon église. Et là, alors que je revenais à l'église, j'avais à peu près 18-19 ans, il y avait une famille qui a commencé à me faire des histoires, et tout un tas d'histoires. Et en fait, un jeune homme a commencé à dire que j'avais dit, alors que j'avais 14 ans ou 15 ans, que je coucherais avec sa fiancée, qui n'était pas sa fiancée à l'époque, quand je voulais. Et je n'ai jamais dit cette chose. Et en fait, c'est devenu une histoire dans toute l'église. Et ce jeune homme, donc, qui était fiancé à cette fille dont j'aurais parlé, soi-disant, se faisait passer pour un saint. Et cette famille se faisait passer pour des saints aux yeux de tous, et tous commençaient à les respecter, esprit d'intimidation. Et cette famille a commencé à prendre toute l'emprise sur l'église, et même sur le pasteur. Et voilà comment ma femme, qui connaissait cette fille, puisqu'elle était dans la même fac qu'elle, se rappelait que sa cousine, à elle, avait dit à l'époque qu'elle couchait avec son copain. Donc, ceux qui disaient de moi que j'avais dit de fausses paroles étaient en train de coucher ensemble en dehors du mariage. Voilà comment, se faisant passer pour des justes, ils étaient en train de me dire finalement, toi tu es injuste, et en train de dire partout dans l'église que j'étais quelqu'un d'injuste. Mensonge démoniaque pour m'éloigner de l'église locale, alors que je voulais revenir à Dieu, pour éloigner celle qui allait devenir ma précieuse femme que vous avez entendue hier prêcher avec le feu. Pour l'éloigner de l'église. Si nous nous étions fait avoir par cet esprit, ma femme hier n'aurait pas pu parler à cet homme, à cette femme adultère, afin qu'elle puisse être délivrée. Mais gloire à Dieu, il a dit, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu vas la convaincre de méchanceté. Je me souviens, mon leader de jeunesse à l'époque, le pasteur Alain Patrick Senge, me dit, Madi, tu vas aller demander pardon pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et j'étais là en train de résister, j'ai dit oui, ok, je vais aller demander pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai été dans un dimanche après-midi, il y avait un pique-nique, et l'église était en train de manger, et là j'ai été là-bas, il y avait comme une réunion autour de moi, et j'ai été demander pardon à ces gens-là pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je me suis humilié, puisque l'humilité précède la gloire. Si je ne m'étais pas humilié ce jour-là, je crois réellement que j'aurais raté des étapes dans ma vie. Dieu voulait que je m'humilie. Dieu voulait simplement que je suive le parcours de Jésus. Celui qui a été jugé alors qu'il n'avait aucun péché. Et donc j'étais là, je demandais pardon. Et je me souviens, cette femme, donc la maman de la fille, elle a crié comme ça alors qu'on était dehors. Elle a crié, je ne te pardonnerai jamais. Et à ce moment, je ne connaissais pas tout le monde spirituel. Mais j'ai su à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui avait été brisé. Brisé. Quelque chose qu'elle avait dit et qui allait avoir un impact dans sa vie. Malheureusement pour elle, pendant des années, elle n'a plus eu une seule nouvelle de sa fille qu'elle voulait à l'époque protéger. Ceux qui s'élèveront contre vous seront dans la confusion. Si seulement vous marchez avec Christ et non pas sur votre propre force. Donc il y a des choses et des esprits méchants et toutes sortes de pensées, et même des hommes, sans parler du diable forcément, des hommes méchants qui avancent petit à petit dans leurs impiétés, dans leur méchanceté, qui vous feront croire des choses qui ne sont pas les vôtres. Ils vous diront que vous êtes moins bien que les autres. Qui n'a jamais rencontré quelqu'un alors que vous annoncez l'évangile, vous dire, oui, mais les chrétiens sont pareils que les autres. Esprit d'intimidation. Non, nous ne sommes pas pareils que les autres. Nous sommes totalement saints, totalement purs. À l'intérieur de mon esprit, c'est tellement pur. C'est plus blanc que blanc. Il n'y a aucun péché dans mon esprit. Aucun démon dans mon esprit, c'est parfait. À l'intérieur de mon esprit actuellement, c'est le jardin d'Éden, avant sa chute. Voilà pourquoi, de mon esprit, je reçois la joie. De mon esprit, je reçois la paix. De mon esprit, je reçois la gloire. De mon esprit, je reçois la solution pour les nations. De mon esprit, je reçois la guérison. Beaucoup crient à Dieu, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Alors que la guérison se trouve dans leur esprit. Beaucoup se disent, Seigneur, je t'en prie, je prie pour une femme, je prie pour une femme. Je prie pour une femme. Ta femme se trouve dans ton esprit. Ta femme se trouve en Jésus. Ta femme ne se trouve pas dans une boîte de nuit. Elle ne se trouve pas sur un site de rencontre. Elle se trouve d'abord dans ton esprit. Plus tu seras proche de Jésus, et plus les choses se mettront autour de toi dans ta vie. Plus tu fonderas ta vie sur l'église que Jésus a voulu bâtir, et plus la bénédiction va courir après toi. Et à chaque fois que je déménage quelque part, et que tout de suite, mon objectif, c'est l'église locale. Je prends une carte, je fais un point sur mon église et avec un compas, je fais un rond autour et je dis, j'habiterai dans ce rond-là, à côté de mon église locale. Et automatiquement, les choses se mettent en place. La bénédiction me poursuit alors que je poursuis l'église de Dieu. Alors que je bâtis ma vie sur l'église que Jésus a rachetée à un très grand prix. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue et tout mensonge qui viendrait te faire croire que tu n'es pas assez bien sera sans effet si seulement tu ne les crois pas. Oh, si tu commences à les croire, ce sera la confusion. Tu viendras voir ta mère, tu viendras voir ton frère, tu viendras voir ton pasteur et tu seras dans la confusion. Tu diras comment c'est possible. Et peut-être que cette personne ne saura pas quoi te répondre parce qu'elle ne connaît pas comment tu as agi. Elle ne sait pas ce que tu as dit. Elle n'était pas là pour voir Job dire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Il a craint. Et il lui arrivait des choses terribles et catastrophiques. Voilà comment il a ouvert une porte à Satan. La Bible dit que ses fils allaient faire n'importe quoi. Et à chaque fois, dans sa crainte, il disait « Oh, mes fils ont peut-être péché. Alors je vais offrir des sacrifices. » Voilà la mentalité de Job. Job était quelqu'un qui marchait dans la crainte. Constamment, à chaque fois que ses fils allaient quelque part, peut-être qu'ils avaient péché, peut-être pas. Mais tout de suite, il était dans la crainte et il faisait des sacrifices. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Il a ouvert une porte à la destruction. Mais quand Dieu lui a montré qui il était, ces choses ont été transformées pour son bien. Parce que tu peux vivre et avoir vécu des malheurs jusqu'ici dans ta vie. Tu peux avoir vécu des malheurs à cause du fait que tu aies cru des mensonges. Mais comme dit la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où la vérité de la parole de Dieu va faire fondre, va détruire, va exterminer, va extirper la puissance que tu avais donnée à l'ennemi dans ta vie. En fait, l'ennemi est impuissant. Le seul moment où il est rendu puissant dans ta vie, c'est quand tu lui accordes de l'importance. Jésus n'a pas été détruit par le diable. Jésus a donné sa vie. Les gens ont cru peut-être que le diable était plus fort. Les disciples se sont demandé, ils étaient dans la confusion. Mais Jésus a dit, je donne ma vie pour eux. Je donne ma vie pour le monde. Donc Jésus dans le désert, le diable était en train de lui donner des mensonges pour que Jésus commence à mettre sa foi dans ses mensonges. Et l'intimidation prendra souvent des paroles de Dieu et va les tordre. Il prendra une parole sur l'humilité et il amènera sur toi un esprit de rejet, un esprit d'infériorité. Alors qu'en Christ, il n'y a pas d'infériorité. Il prendra une parole de la parole de Dieu et il viendra te la susurrer, mais avec toutes sortes de poisons. Il te dira, et toi tu es une femme, n'as-tu pas lu que la femme ne peut pas enseigner ? Regarde, la femme dans le jardin, n'est-ce pas elle qui a fait chuter l'humanité ? Vois-tu des femmes parmi les disciples de Jésus ? Et voilà comment beaucoup de femmes dans l'église commencent à baisser les bras. C'est vrai, je suis une femme. Les 12 disciples, c'était des hommes. Et voilà, je me diminue. Je suis inférieur. Et voilà, beaucoup de femmes ne sont jamais entrées dans le ministère que Dieu voulait pour eux, pour elles, à cause de mensonges semblables. Et le diable viendra prendre des paroles comme ça sur les finances. Regarde l'apôtre Paul. Il dit qu'il vivait dans la disette. Et tu dis, c'est vrai, il a dit qu'il a vécu dans la disette. Mais il ne te montrera pas le verset suivant qui te dit qu'il a vécu aussi dans la richesse. Il te montrera Job, mais la première partie de Job. Oui, c'est vrai, la destruction matin, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il te montrera les chardes de Paul en te mentant et en te disant, tu sais, cette écharde, c'était une maladie. Si tu es malade, c'est normal. Toutes sortes de mensonges pour t'éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Et si tu commences à croire ces mensonges, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des croyants qui se sont fait tellement mentir. Ils ont laissé des mensonges commencer à s'imprégner en eux. Et quand tu es imprégné par un mensonge, tu ne peux plus marcher dans l'assurance. Tu ne peux plus marcher dans la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Tu ne peux plus marcher dans l'assurance pour ta guérison quand il y a du poison dans ta vie. Des mensonges par rapport à la santé divine, des mensonges par rapport à la guérison. Mais toute arme forgée contre toi n'aura aucun effet au nom de Jésus. Éphésiens 6, je suis à mon premier verset, j'en ai à peu près 20. Ah, je suis tellement béni que le pasteur Fofi m'a dit, tu es libre ici, tu es chez toi. Il ne savait pas que même un Français peut prêcher pendant 5 heures. Et même un Blanc peut courir dans son église. Vous le remercierez, pasteur. J'aime le pasteur Fofi. Éphésiens 6, verset 11. En fait, il y a beaucoup de mensonges. Vous êtes peut-être Burundais et on essaie de vous faire croire que vous êtes un Burundais. Vous êtes Congolais, on vous fait croire que vous êtes un Congolais. Vous êtes un Ivoirien, on vous fait croire que vous êtes un Ivoirien. Un Français, on vous fait croire que vous êtes un Français. Alors qu'en fait, non. Vous êtes d'une autre nationalité. Quand vous commencez à croire que vous êtes comme votre peuple, vous allez devenir comme eux. Et quand vous commencez à croire que vous êtes d'un autre peuple, d'une race élue, un sacerdoce royal, vous allez commencer à ressembler à ce que Jésus dit de vous. Et vous n'allez plus mentir parce qu'on vous avait appris à mentir dans votre pays. Vous n'allez plus voler parce que chez vous, c'est comme ça que sont les choses. Vous n'allez plus tout le temps manifester comme les Français parce qu'en France, c'est comme ça. Non, vous allez laisser tout ça derrière vous. Et vous allez commencer à manifester la gloire de Jésus-Christ. Parce que vous êtes d'une autre nationalité. Dans ce livre, j'ai écrit une pensée à ce sujet. À ceux qui ne l'ont pas, je suis désolé pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous donne 30 dollars. Je sais que c'est dur à trouver 30 dollars. Sauf quand on veut s'acheter un parfum à 90 dollars. Là, c'est plus facile. Il y a tellement de gens, ils prient, Seigneur, est-ce que je dois faire cette offrande de 50 dollars? Alors que quand ils sont au restaurant et que c'est 150 dollars, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas besoin de prier pour ça. Mais quand c'est pour donner de l'argent à la maison de Dieu ou à un serviteur de Dieu, là, il faut beaucoup de prières et de jeûnes. Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres ou encore les manigances du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ici, l'apôtre parle d'une lutte. Mais lutte ne veut pas dire que le combat n'a pas déjà été gagné. Parfois, vous pouvez être en paix, une nation par rapport à une autre, et avoir même gagné une guerre, mais la nation viendra à nouveau lutter contre vous. Pourtant, vous aviez gagné, pourtant des traités ont été écrits, mais ils viendront vous faire croire le contraire. Ils viendront vous intimider. Et c'est ce que fait le diable. La Bible ici parle de manœuvre, de manigance. Ça veut dire des réflexions et des pensées qui ont été amenées dans un but particulier, et bien entendu contre vous. Donc le diable a des manigances, des façons de penser et des réflexions, des raisonnements qu'il a acquis au fur et à mesure des années et des siècles qui sont là pour te faire tomber. Des manœuvres, des manigances. Et ici, il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bien sûr, mais contre ces principautés, ces esprits méchants et ces esprits du mal dans les lieux célestes et les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Il y a des dominateurs. Comme leur nom l'indique, les dominateurs sont là pour dominer. Mais que dit Dieu à ce sujet ? N'a-t-on pas été créé pour dominer ? N'est-ce pas à l'homme que Dieu a dit « domine sur tout ce qui existe, sur les animaux des champs, sur tout ce qui existe ?» Dieu a-t-il dit à Satan « maintenant, domine ?» Non. Voilà, c'est un mensonge. Ces esprits dominateurs vont commencer à te faire croire qu'effectivement, ils ont la puissance de dominer ta vie. Il y a un combat qui a déjà été gagné par Jésus-Christ. Jésus a déjà gagné le combat contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Jésus a déjà gagné contre eux. Mais par contre, ils viendront te faire croire le contraire. Ils viendront te faire croire que tu as besoin de lutter pendant de nombreuses années contre eux, alors qu'une simple parole de vérité, dite dans la fermeté, les fera fuir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable non pas à cause de votre prière puissante, non pas à cause de vos forces physiques, mais à cause de la vérité. Une parole de vérité. Il y a des gens qui prêchent, vous avez peut-être déjà vu Yon Gicho prêcher. C'est un homme qui, plein d'autorité et de puissance. Et lorsqu'il prêche, il prêche comme ça. Mais alors qu'il prêche, c'est une parole d'autorité et de puissance. Et quelqu'un prêchera peut-être avec fougue, sans puissance. Quelqu'un prêchera aussi d'un côté avec fougue, avec puissance. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est ce en quoi tu as mis ta confiance et ta foi. Tu peux avoir l'air ridicule à l'extérieur. Tu es un prince. Tu es un roi et tu es venu pour dominer. Dominer sur toute la création. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et j'irai au verset 16 directement. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable a des traits enflammés qu'il veut mettre sur ta vie. Mais lorsqu'il trouve une carapace de vérité, vous savez que la vérité, c'est une cuirasse. C'est un bouclier. Le bouclier de la vérité, lorsqu'il est sur ta vie, les traits enflammés pourront venir et se dissiperont. Elles se consumeront à l'approche de la vérité. Voilà comment Jésus-Christ, avec son royaume de gloire, a fait fuir les ténèbres. Les ténèbres ne pouvaient pas résister. Les démons ne peuvent pas résister là où il y a la vérité. Parce que les démons savent qu'ils ont déjà été anéantis par Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 1. Au verset 5. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Timothée était un jeune homme qui avait été manager, en tout cas, qui avait été coaché, si on pouvait dire, qui avait été enseigné par Paul, l'apôtre. Paul, qu'on a appelé parfois l'apôtre de la perfection. Donc, il a été enseigné par quelqu'un qui savait ce qu'il disait. Quelqu'un de ferme, quelqu'un qui avait vécu des choses, quelqu'un qui pouvait parler. Et apparemment, ici, Timothée avait laissé la flamme du don qu'il avait reçu alors qu'on lui avait imposé les mains et certainement l'apôtre Paul avait prié pour lui. Et la flamme avait jailli dans son esprit. Mais cette flamme s'était éteinte. Cette flamme était devenue faible. Alors que c'était une flamme puissante au départ, cette flamme avait été rendue faible. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Timothée soit devenu quelqu'un de faible, alors que même l'apôtre et les apôtres qui étaient avec lui, qui vivaient des choses extraordinaires, avaient prié pour lui. Alors qu'il avait reçu un don, ici il est dit, il avait reçu un don. Et la Bible déclare que tous, nous avons reçu un don. Bien sûr, Dieu nous en donne souvent plus. Et au verset 7, on voit ce qui s'est passé. « Car ce n'est pas un esprit de timidité, ou encore de crainte, ou encore d'intimidation que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc apparemment, il a marché dans la timidité. Il a marché dans la crainte. Et à cause de cette crainte, son don a vacillé. Son don a été diminué. Son don a été affaibli. Est-ce que son don était moins fort? Spirituellement, non. Naturellement, oui. Spirituellement, son don avait la même puissance. Son don avait le même zèle. Son don avait la même efficacité. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous avons reçu une puissance souveraine, efficace. Mais nous ne la voyons pas toujours. Pourtant, spirituellement, c'est ce que nous avons déjà reçu. Mais dans le naturel, c'est parfois différent. Parce que la flamme a été rendue impuissante par la crainte, par la peur, par la timidité excessive. Et on voit au verset 8 qu'est-ce qui s'est passé. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Timothée a rendu sa flamme vacillante et faible à cause de deux choses. La première de ces choses, c'est qu'il a eu honte du témoignage à rendre à Jésus. Il y avait toutes sortes de moqueurs, toutes sortes de pharisiens qui se moquaient, tout un tas de gens comme les gens de ce monde qui se moquent des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens, à cause de la honte qu'ils ont bien voulu accepter et de cette honte qui s'attache à eux, n'annoncent plus l'évangile parce que la honte s'est attachée à eux. La Bible dit Jésus a méprisé la honte. La honte voulait s'attacher à lui, mais Jésus l'a regardé comme de la boue, comme de la pourriture. Jésus s'en fichait complètement de ce que les gens pouvaient penser de lui. La Bible déclare, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si tu veux plaire aux gens, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Si tu veux plaire aux gens, tu n'es pas digne de Christ. Deuxième chose, c'est qu'il a été intimidé par rapport à la souffrance, par rapport au prix à payer. Il dit « Mais souffre avec moi pour l'évangile. Il a été intimidé. Timothée était là plein de feu, plein de puissance. Il avait reçu l'imposition des mains. Il avait là tout un tas de rêves. Il disait, oh, je vais faire comme l'apôtre Paul. Oh, je vais faire comme Pierre, je vais faire comme Jean. Oh, il va avoir des miracles au travers de ma vie, c'est extraordinaire. Il voyait toutes ces choses, son héritage, ses promesses. Des promesses sont rattachées toujours à un don. Et un don est toujours rattaché à des promesses. Donc Dieu lui a donné un don. Et quand Dieu vous donne un don, et on a vu que Dieu donne un don à chaque personne, il y a toujours des promesses qui sont rattachées. Si Dieu t'a donné un don, il y a des promesses qui te sont rattachées, qui sont rattachées à ce don-là. Et tu dois y entrer. Mais pour cela, tu dois mépriser la honte. Refuser que les paroles que les gens te disent sur toi aient un impact sur ton don. Si des gens commencent à te dire dans ton entreprise, tu sais, ce n'est pas bien ton travail, alors que tu fais bien ton travail, la honte veut s'attacher à toi. Si tout le monde dans ton entreprise commence à dire de fausses choses sur toi et que tu vas après ton travail dans la honte, ton travail il va devenir médiocre parce que tu vas marcher dans la honte. Tu vas te laisser intimider. Et il a eu peur par rapport aux souffrances. La Bible a déclaré la porte d'entrée pour le royaume de Dieu, ce sont les persécutions. Quelqu'un qui n'est pas persécuté dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui doit se poser des questions. C'est quelqu'un simplement qui est dans la tiédeur. Il est là, il est tiède. La tiédeur, c'est une condition misérable par laquelle nous sommes tous passés un jour ou l'autre, malheureusement. La tiédeur, c'est tu es à l'église. Et tu ne portes aucun fruit. Ceux qui sont froids, ils ne sont même plus à l'église. Ceux qui sont bouillants, c'est là que Dieu nous veut. Dieu a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Donc il a vu ses souffrances et il a été intimidé. Il s'est dit, c'est vrai, je vois mes promesses. Mais des gens ont commencé à cracher sur lui. Il a vécu tout ce que Jésus a vécu, ce que l'apôtre Paul a vécu, ce que les disciples vivaient à cette époque-là. Toutes sortes de persécutions, même physiques. Et là, il s'est relâché dans son don et dans son appel. Il s'est laissé avoir par des mensonges. Puisqu'au bout d'un moment, il a commencé à croire qu'il était rendu impuissant, que son don n'était pas assez puissant pour l'amener là où Dieu voulait. Il a même peut-être commencé à croire que finalement, c'était peut-être moins bien pour sa vie que d'obéir à Dieu. Il a commencé à croire des mensonges, comme beaucoup de rétrogrades, qui commencent à croire que finalement, dans le monde, c'est mieux, tu seras plus ce sera plus joyeux, ce sera plus tranquille. Mensonge. Donc il a gardé sa promesse, mais il y avait tout un tas de mensonges. Et au bout d'un moment, peut-être qu'il n'y a pas cru forcément jusqu'au bout, mais au moins il s'est arrêté. Puisque l'intimidation viendra t'arrêter sur le chemin par lequel Dieu voulait te faire passer. Voilà comment, alors que le peuple était près du pays promis dans Nombre, au chapitre 13, le peuple a été arrêté. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Dieu a dit, ils seront des princes. Et Dieu a dit sur toi, qui t'avait revêtu d'autorité et de puissance, et que la puissance du malin ne pourrait pas te faire du mal. Dieu a déclaré sur ta vie que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Dieu a déclaré sur ta vie que tu es plus que vainqueur. Dieu a déclaré sur ta vie que les promesses de Dieu sont oui et amen. À partir du moment où tu crois que les promesses de Dieu sont peut-être ou mais, tu es en train d'aller dans un mauvais terrain. Tu es là avec tous ces gens qui étaient soi-disant, en tout cas, ils étaient appelés à être des princes, et ils étaient là, peureux, dans la peur et dans l'oppression, se tenant proche de l'oppression, alors qu'ils devaient la quitter. Dieu a dit, vous êtes des princes. Il leur a dit, vous êtes des princes. Mais voilà ce qu'ils ont raconté au verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Ils ont dit le mais à la parole de Dieu. Et au verset 30, on voit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. Dans la tête, dans la mentalité de Caleb, dans la mentalité de Josué, ils étaient des vainqueurs. Mais dans la mentalité de ces gens qui étaient pourtant appelés par Dieu, ils avaient une promesse d'être des princes. Voilà ce qu'ils ont dit à leur sujet. Verset 33. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Bien entendu, si tu crois être une sauterelle, les autres vont voir en toi une sauterelle. Si tu as une mentalité de mendiant, les gens, quand ils te verront, ils te diront « c'est un mendiant ». Alors que même tu peux vivre avec autant d'argent qu'un mendiant, mais tu as une mentalité du royaume de Dieu. Et les gens ne verront pas toi en mendiant. Les gens verront quelqu'un, peut-être qui a une certaine faiblesse, mais qui a été rendu puissant au travers de la puissance de Christ. Et à cause de cette mentalité, tu régneras. Et la pauvreté se détachera de ta vie forcément. Parce que tu avais la bonne perception, la bonne mentalité. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Tellement de gens ont une mentalité. Ils ont l'impression que ce sont des moins que rien. Tous, toujours, vous savez, une porte dans l'intimidation, c'est l'orgueil. C'est se comparer aux autres. Quand tu commences à te comparer aux autres, tu entres dans l'orgueil. Quand tu commences à dire, oui, mais c'est vrai, lui, dans mon entreprise, il travaille mieux que moi. Tu es en train de dire, mais finalement, je ne peux pas atteindre ce poste. Tu es en train de rejeter la faveur de Dieu sur ta vie. Quand tu commences à dire, oui, mais lui, il prêche tellement mieux que moi. Tu es en train de te diminuer et de diminuer le don que Dieu a mis en toi. Quand tu commences à dire, mais oui, mais lui, c'est normal, il a de l'argent, c'est pour ça qu'il réussit. Tu es en train de diminuer les promesses que Dieu a faites à ton sujet par rapport à la bénédiction financière. Quand tu commences à regarder les autres pour te diminuer, tu es dans un mauvais chemin. Certes, Dieu a dit de regarder les autres comme plus grands que nous, mais pas pour nous diminuer nous-mêmes. Jésus a regardé les autres comme plus grands que lui, mais pourtant il ne s'est pas diminué. Il a déclaré « Dieu m'a oint ». Il a déclaré devant toute autorité qu'il était le plus puissant sur cette terre et qu'il était capable de résister à n'importe quel problème. Il a déclaré à la tempête, non pas « Oh, tu es une grande tempête, je vais te regarder plus grand que moi ». Non, il a dit à la tempête « Va-t'en, sors de ma vie, quitte ma vie ». La tempête, c'était une tempête de mensonges qui voulait faire des disciples des moins que rien. Et Jésus paraissait dormir. Apparemment, il dormait. Et quand Dieu est silencieux, c'est là que ton cœur va se dévoiler. Lorsqu'ils étaient dans la barque, Jésus était silencieux. Et là, ils étaient sous pression. Là, on a vu vraiment leur foi. On a vu la puissance de leur foi. « Oh Seigneur, nous périssons !» Et quand Dieu est silencieux dans ta vie, c'est là qu'on voit où est ta foi. Quand tu pries pour quelque chose et que tu ne vois pas cette chose arriver et que Dieu ne te parle pas à ce sujet, là on voit si vraiment tu as cru en Dieu ou pas. Quand Dieu ne parle plus, pourquoi Dieu devrait parler une deuxième fois alors qu'il a déjà parlé? Si Dieu a dit « tu seras béni à ton départ, à ton arrivée », c'est une chose qui est faite. Pourquoi tu veux que Dieu te dise à nouveau « tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée » Est-ce que tu es une grand-mère pour devoir te répéter constamment les mêmes choses? Excusez-moi pour les grand-mères. Je parlais des grand-mères qui avaient perdu la tête. Est-ce que tu es sénile pour devoir qu'on te répète tout le temps les mêmes choses? Fais confiance à la parole de Dieu. Quand Dieu est silencieux dans ta vie, on voit la puissance de ta foi. On voit si tu es quelqu'un de ferme. À celui qui est ferme dans ses convictions, tu assures la paix. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu n'es pas ferme dans tes convictions, il n'y aura pas de paix, il n'y aura que confusion pour toi. Si tu n'es pas ferme dans tes convictions, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Dieu t'avait appelé. Tu es la lumière de ce monde, tu es le sel de la terre. Mais si tu perds cette conviction, tu seras pour le monde dégoûtant. Tu n'auras aucune saveur et ils se moqueront de toi. Les gens se sont moqués de Jésus, mais beaucoup se sont attachés à lui. Nous tous, nous nous sommes attachés à Jésus en raison de sa foi. en raison de la puissance de sa foi, alors que même Dieu lui-même avait fermé sa bouche à la croix, Jésus a continué à persévérer. Tu ne laisseras pas voir ton sein la corruption. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, mensonges, portes ouvertes. Arrête de te comparer aux autres. Arrête. Tu marches dans un mauvais combat. Regarde à des modèles pour t'inspirer et pour qu'ils soient une bénédiction pour toi, mais non pas pour te diminuer. Regarde ce qui est bien en eux et deviens comme eux s'ils font des bonnes choses selon Dieu, mais jamais pour te diminuer. Parce que lorsque tu te compares à des gens pour te diminuer, tu es en train de diminuer ton don. Donc Dieu a dit, vous êtes la lumière de ce monde, le sel de la terre. Mais si vous ne marchez pas dans cette conviction, comment des miracles pourront se passer au travers de tes mains? Mais tu ne prieras même plus pour les gens dans la rue. Parce que tu vas te laisser intimider. L'intimidation, c'est quelque chose qui dépasse la réalité, qui dépasse les choses qui sont normales. C'est quelque chose qui n'est pas intelligible. C'est quelque chose d'incorrect. Qu'est-ce qui te fait peur à parler à un incroyant ici au Québec? Est-ce qu'il va te sortir une épée? Non. Est-ce qu'il va te sortir un revolver? Normalement, non. Mais pourtant, nous avons peur. En tout cas, pas moi. Déclare, je n'ai pas peur de parler aux incroyants de Jésus. Parce que Dieu m'a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Non pas à cause de moi, à cause de ce qu'il a dit de moi. Et déclare ça régulièrement dans ta vie. Je suis à mon quatrième passage. Philippiens, au chapitre 1. Je me souviens au début, quand je suis revenu au Seigneur, je savais que j'étais appelé à prêcher l'Évangile. Et j'ai fait tellement de rêves où j'étais sur une estrade et je n'avais rien préparé et je n'avais rien à dire. C'était des mensonges démoniaques. Et vous ne savez peut-être pas ce que c'est de prêcher, mais parfois Dieu défie votre foi et il ne vous dit absolument rien jusqu'au moment où vous êtes sur l'estrade. Parce qu'il veut voir, as-tu foi en moi? Et il veut aussi te faire comprendre que ta puissance personnelle ne t'amènera à rien du tout. Celui qui commence à croire, oui, moi je sais prêcher maintenant, il est en train de courir vers la défaite. Et donc j'ai fait des rêves qui étaient faux, qui n'étaient pas forcément sataniques. La Bible dit qu'on rêve et que la multitude de nos activités, on rêve de la multitude de nos activités. C'est-à-dire que si tu as des pensées de crainte, tu vas rêver de crainte. Si tu rêves d'un gros serpent qui mange ta tête, ne dis pas que c'est le diable qui t'a amené ça. Non, c'est seulement la crainte qui habite en toi. Si tu rêves des choses sataniques, ce n'est pas forcément Satan, non. C'est ta foi en lui. Ah oui, si tu as foi en sa puissance, tu feras des mauvais rêves, je te le dis. Si tu regardes des mauvais films, tu feras des mauvais rêves aussi. Et ne dis pas que ce sera des attaques de Satan, non. C'est toi-même qui t'approches de l'oppression. Tu fais de l'oppression ta demeure, au lieu de faire de la présence de Jésus ta demeure, de la maison de Dieu ta demeure. Donc, beaucoup parmi vous, vous avez fait des faux rêves. Des rêves que vous avez faits et qui vous ont donné une certaine mentalité de qui vous êtes. Dieu vous avait appelé à ça, mais vous faites un rêve où rien ne réussit, où tout échoue. Et parfois ce n'est pas des rêves, parfois c'est des paroles, des pensées qui viennent, pensées d'échec. Tu ne réussiras pas. Je me souviens que longtemps, l'esprit de pauvreté s'est attaché à ma vie. J'avais une mentalité de pauvre. Alors même, je me souviens, au début, je commençais à prêcher. Et j'avais toujours cette mentalité. J'avais du mal à croire que Dieu pouvait bénir d'une façon extrême ma vie. Mauvaise mentalité. Et c'est seulement il y a peu de mois que j'ai commencé à entrer dans une réalité nouvelle. Où Dieu m'a dit, je te bénirai. Partout où tu iras, je te bénirai. Si tu crois être maudit, il en sera fait selon ta foi. Si tu crois être béni, la bénédiction de Dieu s'attachera à toi et te poursuivra toujours. Il y a une femme que je connaissais, c'était une femme de pasteur. Elle avait eu un accident de voiture. Et elle n'avait plus jamais conduit depuis cet accident de voiture. Ça faisait 15 ans. Elle marchait dans la crainte. Elle ne pouvait pas s'imaginer conduire, même pas dans un parking vide de voiture. Parce qu'elle s'était laissée intimider. Il y a des milliers de gens sur Terre, peut-être même des milliers, même rien qu'au Canada, de gens qui ne veulent plus conduire parce qu'ils ont eu un accident de la route. Ils se sont laissés intimider. Il y a des milliers de chrétiens qui ne veulent plus annoncer l'évangile parce qu'ils se sont laissés intimider. Des milliers de gens qui ne veulent pas aller plus loin dans leur don parce qu'ils se laissent intimider. Ils se disent, mais regarde comme elle chante celle-là. Et moi, regarde ma voix. Alors que c'est leur appel, ils se laissent intimider. Ils se disent, regarde comme il parle bien en anglais, lui. Je sais que je dois parler en anglais, mais regarde lui comme il parle bien en anglais. Alors je ne parle pas en anglais devant les gens, j'ai peur. La honte. Ils s'attachent à la honte. Au lieu de s'attacher à leur appel, à leur promesse. N'aie pas peur et n'aie pas honte. Qu'il n'y ait aucune crainte en toi. Quand tu es intimidé, tu n'as plus d'assurance. Tu n'as plus d'assurance. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne. Ça veut dire avec les pensées de Dieu. Ce n'est pas seulement la sainteté ici. C'est avoir la mentalité de Dieu comme un prince, digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Quelle était la conduite digne ici? C'était de combattre. C'était pas de rester derrière, en train de se dire, c'est vrai, je ne suis pas ceci. Oui, mais là, j'ai échoué, mais je ressens que ça. Ou je ne ressens pas l'onction sur moi. Ou c'est tellement loin tout ça. Tu es en train de te laisser intimider par la parole de Dieu. Il dit ici, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires, c'est pour eux une preuve de perdition. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas résister à l'intimidation, des esprits d'intimidation vont dire, mais lui, je ne peux pas, ça ne marche pas avec lui. Regarde, il y a la preuve ici. Il est en train de changer d'attitude. Il est en train de parler la parole de Dieu dans sa vie. J'ai la preuve ici, je ne peux plus rien faire contre cette personne. Et ils s'éloigneront de toi. Parce que sachez que quand vous résistez aux démons, vous les oppressez. Alors qu'ils voulaient vous oppresser, c'est vous qui les oppressez. Ils se tordent de douleur. Ce sont des choses qui sont là, qui sont réelles. Ne vous laissez pas intimider, mais montrez-leur la preuve de votre foi. Au travers de votre déclaration, mais non seulement déclaration, au travers des actes que vous posez dans votre vie. Il y a des gens, vous êtes appelés à faire des belles études, mais vous vous dites, non, ce n'est pas pour moi. Parce que ma famille, voilà, il y a la pauvreté, il y a ceci. Mon père n'était pas très intelligent. Et tu t'attaches à ça. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils sont restés dans le même niveau social où ils étaient, alors que Dieu voulait les appeler à plus. Parce qu'ils avaient de mauvaises mentalités. Beaucoup d'autres aussi, à cause de l'orgueil, ont voulu monter par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et là, Dieu ne pourra pas les bénir. Mais quand vous montez juste parce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie, Dieu ne nous appelle pas à prospérer pour nous-mêmes. Dieu nous appelle à être riches. Vous savez que Dieu nous appelle à être riches. Jésus a dit, soyez riches. Vous saviez que Jésus avait dit ça, soyez riches? Il a dit, soyez riches pour Dieu. Dieu t'appelle à être riche, mais pas pour toi, pour Dieu. La parole de Dieu dit que les riches, ils soient pleins d'œuvres bonnes et de libéralité. On va aller dans Actes au chapitre 4. Et au verset 17, il y avait là Pierre et Jean qui ont prêché l'évangile. Ils ont été arrêtés. Il est dit, mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et un peu plus loin, au chapitre 5, au verset 40, il est dit, ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges ou de fouets, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Si tu es en train d'annoncer l'évangile dans la rue et qu'il y a des gens costauds, avec des piercings, des tatouages et des gros muscles, qui viennent avec une batte de baseball et qui te commencent à te fracasser, je pense que tu seras intimidé. Mais eux, la Bible dit ceci, se retirèrent devant le Sanhédrin joyeux. Ils étaient joyeux. Ils ne se sont pas laissés intimider par les adversaires. Mais ils sont sortis de là alors que le diable voulait les intimider et qu'ils arrêtent d'annoncer l'évangile. C'était le but ultime du diable, parce que c'est le but ultime du diable que tu puisses fermer ta bouche alors qu'il y a des incroyants devant toi qui courent en enfer. C'est son but ultime. Son but ultime, ce n'est pas que tu marches dans la pauvreté. Ce n'est pas ça le but ultime. S'il veut t'attaquer dans la pauvreté, c'est pour que tu ne finances pas l'évangile, afin que les gens ne soient pas sauvés. Son but ultime, ce n'est pas te faire du mal. Ce n'est pas ça son but. Ça, c'est les conséquences. Mais pourquoi il te fait du mal? Parce qu'il ne veut pas que tu resplendisses en gloire pour les gens de ce monde et que tu n'annonces pas l'évangile. Ça, c'est son but ultime. La maladie et toutes ces choses-là, ce n'est pas son but ultime. Ça, ce sont les conséquences de son but, de ce qu'il désire, de ce qu'il poursuit. Ce qu'il poursuit, ce sont les incroyants, ce sont les gens de ce monde qu'il poursuit avec lui pour les faire descendre en enfer. C'est son but ultime. Tout ce qui vient dans ta vie contre le fait d'annoncer l'évangile et de porter du fruit pour son royaume, tu es en train de te faire voler. Et comme dit un chant, il faut regagner ce qui a été volé par l'ennemi en accomplissant ta mission. Défendons-leur de parler en ce nom-là, intimidation. Quand tu es dans l'intimidation, tu n'es plus dans l'attaque, tu es dans la défensive. Tu es en train de te défendre. Alors que tu étais bien parti dans l'attaque, te voilà en train de te défendre. Tu avais commencé à faire ce que Dieu t'avait dit, tu commençais à te réjouir. Et là, intimidation. Et on dit, mais toi, tu ne prêchais pas l'évangile avant? C'est pas toi qui m'avais raconté que tu avais guéri quelqu'un dans la rue? C'est pas toi qui m'avais dit que Dieu t'avait appelé à être patron d'entreprise? Oui, mais tu sais, c'est difficile. Tellement de gens se sont laissés intimider par des choses spirituelles, mais qui marchent dans le naturel. J'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais plus par où terminer. On va aller dans 1 Samuel 17. Au verset 8. On va lire à partir du verset 5. Il avait sur la tête, en parlant de Goliath, un casque de bronze et portait une grosse cuirasse à écailles qui pesait 5000 sicles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze, un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 sicles de fer. Le porteur du bouclier, tellement qu'il était lourd, marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël au complet, il leur cria « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin? Et vous n'êtes-vous pas les esclaves, ou alors ici littéralement les chiens, ou on pourrait dire encore les sauterelles de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Il était en train de les intimider et de leur dire « Regardez comme je suis puissant et fort. Et vous, vous êtes juste les esclaves d'un homme. Vous êtes des chiens, vous êtes des sauterelles, vous êtes rien. » S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Paroles de mensonge qui amènent un roi et tout son peuple dans la crainte et dans la terreur. Tellement de paroles qui essaient d'amener les chrétiens dans la crainte et dans la terreur. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que cette crainte est brisée ce soir. Que cette terreur est brisée, les terreurs nocturnes et les terreurs d'accomplir la volonté de Dieu. Les terreurs que ça ne marche pas, au nom de Jésus, sont brisées. Ça marchera, ça réussira parce que Dieu a dit que le succès s'attachera à ta vie. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Oui mais Seigneur, tu n'as pas dit je serai béni au milieu. Tu seras béni partout, de toutes parts. Tu seras toujours en haut. Toujours à la tête, jamais la queue, tu seras béni partout. Partout, tu seras béni. À ce moment-là, David s'est présenté. Et son frère s'est moqué de lui. Saül s'est moqué de lui. Il a dit, tu ne peux pas monter. Cet homme, c'est un homme de guerre. Toi, tu es juste un petit enfant. Mais David a dit non. Il se rappelait qu'il avait déjà réussi dans sa vie avec Dieu. Celui qu'il avait formé, Saül, il lui avait beaucoup parlé. La Bible ne relate pas tout ce qu'il lui a dit. Mais c'est clair qu'il aurait dû être normalement le modèle de David. Celui qui était au-dessus de lui lui a dit une parole négative pour le rendre impuissant. Mais il a dit non, je refuse l'intimidation. Il était là dans le champ de bataille et son frère Eliab, celui que le prophète avait cru être l'appelé, parce qu'il avait tout d'un appelé physiquement et dont Dieu avait dit non, il n'est pas selon mon cœur, est en train de l'intimider. Qu'est-ce que tu fais là toi? À qui as-tu remis ces bêtes dans le champ? Ils avaient remis à quelqu'un. Et puis plus loin, déjà il a commencé à déclarer la parole au verset 37, chapitre 17. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Tu as besoin régulièrement dans ta vie de proclamer les promesses de Dieu, à quoi il t'a appelé. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement te soumettre à la parole de Dieu et la déclarer dans ta vie, déclarer la vérité. Au verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Combien il y a de roux dans ce monde? On les a intimidés, on les a mis de côté parce qu'ils étaient roux. Peut-être que ça lui était arrivé à lui, mais il ne s'est pas laissé intimider. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà ce que Goliath voulait amener dans la pensée de David. Tu vas échouer. Regarde, je te donne même une image. Regarde-toi par terre mort et les oiseaux te piqueront la tête. Puisque quand tu commences à accepter l'oppression et les mensonges de l'ennemi, il y a toute une image, il y a un cinéma diabolique. Et tu commences à te voir dans la situation en train d'échouer. Tu te dis, ah, ça va être dur, comment ça va se passer, mes enfants, ceci, cela. Ah, s'il y a la maladie qui s'attache à toi. Tu es en pleine santé, mais là, il y a des pensées de maladie qui viennent sur toi. Et tu te dis, ah, et là tu commences à te voir malade et tout ça. Pensée démoniaque, mensonge de l'ennemi. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et il n'a pas dit, moi je marche avec toi parce que j'ai gagné déjà avec Dieu, parce que je suis fort et puissant. Il a dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mise au défi. Et là, il l'a déclaré, il a opposé la puissance de Goliath. Il a résisté, mais non seulement il a résisté, mais il a commencé à proclamer, à déclarer, à publier ce que Dieu allait faire au travers de lui. Il n'a pas déclaré les choses alors qu'il était en train de couper la tête de Goliath. Il a déclaré les choses alors que l'ennemi était devant lui. Il s'est confronté à Goliath. Il lui a résisté, mais non seulement, il s'est confronté à lui. Il a tordu les paroles de Goliath. Il les a réduits à rien. Et il les a transformés. Quand il y a une pensée qui vient te dire, tu vas être malade, c'est là que tu ne restes pas en train juste de résister. Non, tu déclares, oh je suis en bonne santé, je suis en parfaite santé. Dieu a dit sur ma vie, il a promis une longue vie sur cette terre. Oh je vivrai vieux et en parfaite santé. Non, je ne serai pas comme tous ces gens séniles qui font sur eux. Ce n'est pas ma bénédiction, ce n'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Non, je vivrai parfaitement jusqu'à la fin de mes jours. Si tu commences à croire alors que tu vieillis et regarder les gens inconvertis autour de toi et les chrétiens qui n'ont pas eu foi, comme ceux qui étaient là avec Josué et Caleb qui n'ont pas eu foi, ils étaient plus que ceux qui avaient foi. Si tu commences à regarder les gens qui marchent comme ça dans la vieillesse avec toutes sortes de problèmes, oh tu vas mettre ta foi là-dedans. Tu vas mettre ta foi là-dedans. Mais si tu commences à regarder la parole, les choses qui vont venir sur toi, tu vas sentir un moment, aïe, peut-être quelque chose de mal. Tu dis non, c'est pas ma destinée. C'est de l'intimidation. Je refuse ces choses, je résiste à ces choses et je déclare la parole de Dieu. Il a déclaré à Goliath, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres de tout le camp des Philistins, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, Et toute la terre entière reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. C'est ce que tu as besoin de déclarer sur ta vie. Non pas ta puissance, non pas ta force. La Bible dit, ce trésor, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée non pas à nous, mais à Dieu. Je te déclare qu'il y a une puissance supérieure qui habite en toi. La Bible déclare qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il y a une puissance souveraine en toi. Il y a une puissance supérieure en toi qui habite réellement en toi. Elle est là dans ton esprit et elle ne demande qu'une seule chose, c'est à se manifester. Mais elle se manifeste au travers d'actes concrets que tu poses dans ta vie et de paroles de Dieu. Oh, quand tu commences à parler la parole de Dieu, ta vie est en transformation. Quand tu commences à parler la parole de Dieu, les choses se mettent en route dans ta vie. La bénédiction t'atteint, elle te poursuit. La Bible dit, et Dieu a dit de sa parole, lui-même, Dieu a parlé, il t'a parlé personnellement, puisque cette parole t'a été adressée personnellement. Il a dit, la bénédiction te poursuivra. Il y a une bénédiction qui est là et qui veut poursuivre ta vie. Mais cette bénédiction est bloquée par des mauvaises confessions. Cette bénédiction est bloquée là où il y a l'intimidation, la confusion. Elle-même n'arrive plus à trouver sa route. Mais quand il y a la vérité, quand il y a la proclamation de la parole, toutes sortes d'oppressions qui viennent sur les chrétiens pour les rendre ridicules, pour les rendre moins que rien. Et les chrétiens sont là, ridicules, et dans le moins que rien. Mais il y a un autre peuple, parmi le peuple de Dieu. Ce sont ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal, devant les mensonges de l'ennemi, devant les choses sataniques. Ceux qui n'ont pas plié le genou devant ces mensonges. Ceux qui n'ont pas été animés de l'esprit de Jézabel, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de désirs pernicieux. Quand tu as des mauvais désirs, tu ne pourras pas résister à l'intimidation. Tu marcheras dans des problèmes et des difficultés. Mais quand tu marches dans la volonté de Dieu, voulant faire accomplir sa volonté, tu pourras peut-être pécher ici et là, tu brancheras d'une manière ou d'une autre, mais tu seras radical envers le péché et tu poursuivras ta course, sachant que d'autres ont péché avant toi. Tu poursuivras ta course et tu proclameras la parole de Dieu. L'apôtre Paul va déclarer qu'à cause de l'excellence de ses révélations, il lui a été donné une écharde dans la chair. Il y avait tellement de révélations qui étaient là, et cette écharde, c'était toutes sortes d'oppressions, dont, et je terminerai là-dessus, il est parlé ici, au chapitre 11 de 2 Corinthiens. Quelle était cette écharde? 2 Corinthiens 12, 9, quelles étaient les conséquences de cette écharde? Pardon, c'est 11, 24. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail, à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste. Voilà quelle était son écharde. Et c'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, j'ai supplié le Seigneur d'éloigner de moi toutes ces choses-là. Mais Dieu lui a dit que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se démontre. Car quand tu es faible et que tu t'appuies sur la vérité de la parole de Dieu, c'est alors que tu es fort. Quand tu t'abandonnes à Dieu et tu dis au Seigneur, je sais que toutes ces choses-là, je ne pourrai pas y résister par moi-même. Je vais y résister par ta parole. Et ce sera mon dernier passage. Psaume 23. Et ceux qui le désirent pourront se lever avec moi. Psaume 23. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Oh, vous avez compris. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux de paix. Il restaure complètement mon âme et mes pensées. Il me dirige dans des sentiers justes à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, dites-le avec conviction, dites-le pour votre vie, non pas pour moi. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je viendrai habiter dans la maison de Dieu pour la durée des jours. Oh oui, la bénédiction de Dieu sera tous les jours dans ma vie. Le bonheur sera dans ma vie. La paix sera dans ma vie. La joie sera dans ma vie. Oh, les oppressions ne seront pas dans ma vie. Elles me quittent au nom de Jésus. La crainte me quitte au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour vous, s'il vous plaît, soyez attentifs, réceptifs. Le Saint-Esprit va toucher plusieurs personnes ici et briser l'intimidation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit d'intimidation de quitter les vies. Tout esprit de crainte, de peur nocturne, au nom de Jésus, est brisé et anéanti. Je déclare la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Rien ne peut résister à la vérité. Je proclame le sang de Jésus-Christ par lequel nous avons été rachetés à un très grand prix. Aucune condamnation, aucun esprit méchant ne peut me résister grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise la puissance des esprits méchants ici. Des esprits qui veulent dominer les vies. La crainte qui s'attachait à toi est anéantie. Elle est brisée. Ce n'est pas une question de ce que tu ressens. C'est une question de la vérité, non pas de la réalité. C'est une question de vérité. Il te libère maintenant. Il te guérit. La crainte s'en va. Ceux qui ont mal quelque part, posez la main où vous avez mal si c'est possible. Je vais prier pour vous et déclarer la liberté. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer et pour rendre libres les opprimés. Au nom de Jésus-Christ, je me dresse contre toute maladie. Et je déclare que ces maladies sont brisées et anéanties. Tout esprit de maladie quitte les vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ, c'est terminé. Cette maladie quitte ta vie. Au nom de Jésus, tu es libre. Libre. Ces esprits menteurs quittent les vies maintenant. Au nom de Jésus. Les pensées de mensonges quittent les vies. Au nom de Jésus, je proclame la vérité de la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. J'appelle la guérison maintenant dans ton corps. Maintenant dans ton corps. Au nom de Jésus, maintenant. Puissance de guérison vient sur toi. Puissance de délivrance vient sur toi. Tu es délivré maintenant de tous ces esprits qui en voulaient à ta vie. Tu es délivré de cette oppression maintenant. Et déclare avec moi, cette oppression quitte ma vie. Cette maladie quitte ma vie. Vous êtes libre. Libre au nom de Jésus. Rappelez-vous que vous allez servir obligatoirement ce que vous craignez. Si vous craignez Dieu, de la bonne façon, vous allez servir Dieu. Et si vous mettez votre foi dans la crainte, ou si vous craignez Satan, vous allez le servir lui, en acceptant ses idées. Toi qui as été délivré ce soir, toi qui as été guéri, il y a des gens qui ont été guéris ici ce soir, je le crois. Des gens qui ont été délivrés. Ce n'est pas une question de ce que tu ressens. La Bible parle de la chair. La chair veut ressentir les choses. Jésus n'a jamais dit quand tu seras guéri, tu vas ressentir quelque chose, un petit frisson. Si tu sens, c'est bien. Si tu ne sens pas, tu as quand même été guéri. Donc marche dans ta liberté. Marche dans la guérison. Marche dans ta victoire au nom de Jésus. Nous allons passer l'offrande ici. Et je sais qu'ici, hier, il y a eu des...